Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, maintien direct, barrage ou relégation, ce week-end aura au moins permis de barrer une proposition sur ces trois, puisque Nantes est venu rejoindre Metz sur le banc des équipes reléguées en Ligue 2. Pour le HAC, en revanche, le suspense continue. On l'a souvent évoqué ici même, il faudra attendre la 34e et dernière journée pour peut-être, certains diront sans doute, se sauver. Pour en parler et débriefer le match face à l'OM, j'accueille Chris Fouache, président du COP Ciel et Marine. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous.
Et pour être à vos côtés, évidemment, mes camarades journalistes partenaires de ce podcast, Mathieu Billot de Foot Normand, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Luc Gallet du Courrier Cauchois, bonjour.
Salut tout le monde.
Avec vous.
Très en forme, Luc Gallet.
Voilà, on va donc revenir sur la dernière prestation des Ciels et Marines. Je vais prendre vos paris pour ce dimanche et la dernière journée de la saison régulière. C'est parti pour le débrief 100% HAC saison 2, épisode 16.
C'est une soirée très compliquée, on a pas mal de regrets, mais après il faut aussi réaliser qu'il reste un match, qu'on est devant et qu'on devra faire le travail jusqu'au bout. Il y a peut-être des clubs qui ne sont pas faits pour la facilité et nous, je pense que c'est notre cas.
Didier Digard, l'entraîneur havrais, en conférence de presse ce dimanche après donc cette défaite 1-0 face à un Olympique de Marseille qu'on a connu plus flamboyant. Le Havre est en ce début de semaine 14e avec 32 points au compteur. Un point d'avance donc sur le 15e Auxerre et sur le barragiste Nice. Hein, l'avance qui a fondu puisque c'était 8 points il y a encore quelques semaines. Avant de revenir sur ce maintien qu'on attend toujours, un petit mot sur le match, Chris. Qu'en avez-vous pensé de ce match et de peut-être aussi de ce pénalty, parce que c'est ce qu'on retiendra hein, du match face à Marseille.
Ouais, bah, je crois qu'on peut retenir ce qu'a dit Didier Digard, c'est que je crois qu'on est fait pour souffrir. De toute façon, quand on est en Ligue 2, quand on a 10 points d'avance, on joue tout sur la dernière journée. Quand on est en Ligue 1, on attend la 98e, 99e minute pour se maintenir. Mais cette année, on ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire qu'on pense à un moment qu'on est quasi sauvé. Comptablement, c'était plutôt bien. Puis au final, on traîne en route. On perd des points alors qu'on peut en prendre certains contre Metz. On mène à Angers, on mène à Nice, on mène beaucoup. Mais au final, on fait des nuls. On n'avance pas. Et les autres derrière, eux, prennent des victoires très importantes. Et tu te retrouves à une journée de la fin où tu n'es pas du tout sauvé. Et donc sur le match, bah, on n'a pas vu un match extraordinaire, je trouve, avec une équipe de l'OM qui, voilà, en fin de saison... Et pas trop dedans, mais voilà, ils ont fait juste ce qu'il fallait pour prendre les 3 points et ce qu'ils étaient venus chercher. Et nous, voilà, on a eu quelques situations, mais encore une fois, on a manqué de finition. Il y a le penalty, il y a quelques occasions qu'on aurait peut-être dû mieux gérer. Et voilà comment on se retrouve à encore tout jouer sur une 34e journée, pardon.
Messieurs, un avis sur ce match
Ouais, juste sur le pénalty, effectivement, de Sofiane Boufal, hein, donc expédié sur la barre transversale. Bon, ça arrive, il n'y a que ceux qui ne les tirent pas, qui ne les ratent pas. Forcément, cette saison, c'est pas un exercice dans lequel le HAC brille après avoir acquis son maintien
c'est
sur
quatrième.
Ce. Voilà, quatrième pénalty. Quatrième sur six, c'est énorme, hein, surtout que forcément, ça a des conséquences sur les scénarios des matchs et sur le bilan comptable. Mais même si le Havre avait pris un point, alors. Dans la dynamique, ça aurait peut-être changé, mais le HAC n'aurait pas été maintenu officiellement. Il aurait quand même été sous pression. Alors, ça aurait rajouté une petite sécurité supplémentaire, mais vraiment très légère. Il fallait, compte tenu de la victoire d'Auxerre, l'emporter. Et voilà, hier, c'était pas le plus grand match auquel je pense qu'on ait assisté au stade d'Océane ou même auquel on a vu du HAC cette saison. Une équipe qui semble un peu à bout de force, même sur d'autres matchs. Mais malgré tout, une équipe qui est dans le coup et qui aurait pu égaliser à la dernière seconde, a une grosse situation dans les arrêts de jeu, si je me souviens bien. Ouais. Donc voilà, non, c'était un match, effectivement, un match pas terrible entre deux équipes pas en grande forme, qui basculent, c'est vrai, sur ce pénalty. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, même hier, pénalty accordé aux Marseillais, là, sur ce coup franc où Lucas Gourna se... se tourne de trois quarts et touche le ballon du coude, légèrement décollé. Bon, appel de la VAR. Bon, c'est un peu les signes que quand les soirées tournent pas rond, et il y a toujours ces petits coups de sifflet d'un côté.
Ouais. Penalty. Ouais, est-ce qu'il fallait que ce soit Sofiane Boufal qui tire ce penalty, Luc?
Oui, enfin. Que ce soit,
on le voyait assez nerveux quand même depuis le début du match.
Oui, mais c'est lui qui est désigné. Donc,
et c'est lui aussi qui l'obtient. Alors bon, il y a l'école, mais c'est lui qui l'obtient.
Oui, ça oui.
Tout seul comme un grand, si je trouve qu'effectivement Sofiane Boufal n'a pas fait un grand match hier par rapport au standard de Sofiane Boufal, bien entendu. Mais le pénalty, il va chercher tout seul, hein, comme un grand. Et après, ouais, Luc le dit, hein, il y a un ordre qui est préposé, qui était déjà le même contre Metz, mais visiblement, Boufal était sorti. Et donc, Yanis Zouaoui est le préposé numéro 2.
Ouais.
Donc, c'est juste, en fait, ça a été mal. Et en fait, forcément, comme il l'a pas mis, on va retrouver 50 000 trucs à redire sur c'était Pierre Paul, on aurait peut-être dû sortir Abdoulaye Touré des tribunes pour le tirer, enfin.
Que ce soit Sofiane Boufal ou Yanis Zouaoui, j'ai envie de dire à la limite, peu importe. Ce qui me dérange un peu, c'est l'interprétation qu'on fait notamment sur la main sanctionnée de Lucas Gourna, parce que sur 10, enfin, je pense qu'il y a 10 situations différentes où il y a des jugements, enfin, il y a des jugements des arbitres qui peuvent être différents. Et là, sur ce match-là, ça a été très vite vu à la VAR, ça a été très vite sanctionné. Alors que sur d'autres matchs, et je parle même d'un autre cas du hack, on n'avait pas sanctionné une main de Keshta sur un match face à Auxerre. Donc, il n'y a pas de... Enfin, c'est très aléatoire et l'interprétation est différente selon les arbitres et selon ce qu'ils voient, ce qu'ils interprètent de ces images-là. Et moi, je trouve que cette main, elle est quand même... Ça me dérange. Enfin, moi, je trouve ça très difficile d'accorder un pénalty pour cette main-là.
Chris... Je vois plus ou moins hocher la tête.
Ah bah oui, sur cette question d'interprétation, je crois que malgré la VAR depuis des années, il y a des situations qu'on comprend toujours pas. Je crois qu'on a encore vu la situation en Ligue des Champions cette semaine ou sur l'action de Paris, sur le dégagement sur la main. On comprend pas trop ce qui se siffle, ce qui se siffle pas sur des contacts dans la surface. On comprend pas toujours tout. Donc voilà, ce coup-là, c'est pas tombé du bon côté pour nous, malheureusement, mais bon. Faut quand même signifier que, comme au début de l'émission, on l'a dit, Nantes et Metz, pour eux, c'est fini. Il y en a beaucoup qui aimeraient au moins être à notre place, c'est-à-dire être encore en vie.
C'est sûr.
À la 34e journée. Nous, on a la chance de toujours l'être.
Et d'être en plus devant encore Metz et Auxerre.
Devant, d'avoir encore notre destin entre les mains. D'avoir notre destin entre les mains. Et il y aura encore un joker si ça devait mal se passer. Donc, c'est quand même une bonne situation pour notre situation.
Après, pour revenir sur le match en lui-même, je trouve que effectivement, ça n'a pas été une grande rencontre. Techniquement, ça n'a pas volé très très haut. En plus, on avait quand même en face une équipe de Marseille qui était clairement pas en confiance, qui était pas sur une bonne dynamique, qui inspirait pas la sérénité du tout. Et pourtant, t'arrives pas à emballer cette rencontre-là, hormis un plutôt bon premier quart d'heure, je trouve. Derrière ça, il y a pas eu grand chose de bien rare à se mettre sous la dent pour le hack, donc moi je trouve ça inquiétant.
Et les entrants n'ont pas été forcément, n'ont pas été décisifs comme ça a pu être le cas d'autres fois. Et moi je m'interrogeais à la fin du match sur le choix de faire rentrer Yacine Keshta qu'à la 89e minute, alors qu'on sait que c'est parfois un joueur qui amène un peu
en tout cas, c'est un joueur
un dynamisme
qui avait remplacé Sofiane Boufal, quasiment la dernière, enfin pendant okay, l'échauffement contre Metz, et forcément qui offensivement s'est illustré avec un but magnifique et aussi en tout cas à l'origine du premier but, je crois, d'Ali Samata.
Ouais.
Voilà, donc c'est vrai qu'il est pas beaucoup utilisé. Clairement, avec l'arrivée de Sofiane Boufal, il est relégué au numéro 2. Après, de l'extérieur, on pourrait se dire bah tiens, Sofiane Boufal sort. C'est Yacine Keshta qui rentre, c'est pas les choix du coach. Alors il y a toujours le regard de l'extérieur que nous on peut avoir sur un match, et il y a tout ce qui se passe la semaine ou tout ce qui se passe depuis des mois que moi à titre personnel je ne suis pas au courant. C'est voilà, mais très clairement ouais, Yacine c'est plus un premier choix, mais on sait pas, peut-être au même titre qu'un Abdoulaye Touré, peut-être qu'un Yacine Keshta sera le héros du maintien du hack dans une semaine. Ça serait une belle histoire. J'ai déjà écrit l'article. C'est parfait. C'est bon. C'est parfait.
C'est pas une crainte. C'est surtout de l'impatience de se dire que c'est bon, c'est fait. On est toujours maître de notre destin. On va aller à Lorient avec nos armes et on espère acquérir ce maintien là-bas parce qu'on le mérite, que ce soit le club, le coach, les joueurs, les supporters. Vous avez vu le stade ce soir. On sait que tout est possible. On n'attend pas, comme j'ai dit, un contre-résultat de Auxerre. Non, on n'attend pas vraiment là-dessus. On est vraiment concentré sur nous et on sait que le maintien, il va s'acquérir si nous, on fait les choses, si nous, on gagne. On peut l'acquérir que par nous-mêmes et on l'a vécu l'année dernière. Ça va se répéter cette année.
Dans le débrief 100% avec la patte gauche du Havre, hein, Yanis Zouaoui, qui évoque donc ce maintien qu'il faudra aller décrocher au Moustoir dimanche prochain sur la pelouse de Lorient. Dans le même temps, Auxerre se déplace à Lille et Nice reçoit Metz, qui est donc, on l'a déjà dit, relégué. Alors, maintien direct ou barrage, à quel scénario croyez-vous, messieurs? Je me tourne vers Chris. Évidemment, on a l'impression un petit peu de revivre ce qu'on vivait l'année dernière à peu près à la même époque, puisqu'on s'était vu après le match face à Strasbourg, mais bon, forcément, on y croit.
Bien sûr, on y croit, sinon, de toute façon, on n'irait pas et on arrêterait de suivre. Mais on va chez une équipe qui, malgré qu'ils sont en vacances depuis un bon mois et demi, parce qu'ils ont acquis le maintien.
9e, hein, Lorient.
On voit, alors, j'ai pas, vu que je suis au stade et tout ça, j'ai pas trop la chance de voir les matchs de Lorient, mais quand on regarde les résultats, on voit que, bah, malgré qu'ils sont en vacances, ils continuent de faire des choses, ils jouent le jeu. Ils ont fait nul au parc, ils ont battu l'OM 3-0. Ils font des résultats tous les week-ends. Donc, malgré qu'ils aient plus rien à jouer, je pense qu'ils vont, eux, vont jouer le coup à fond. Et nous, bah, va falloir faire ce qu'on a réussi à faire l'année dernière à Strasbourg. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer, aussi bien à Lorient qu'à Lille ou jouera Auxerre ou à Nice, il va falloir tout faire pour aller chercher la victoire, conserver notre destin en main jusqu'au bout. Après, il suffit de gagner 1-0, on s'en fiche. Hein. Peu importe, à partir du moment où on gagnera, ce sera sûr que ce sera fait. Donc, oui, bien sûr, on y croit. De toute façon, pour le moment, on n'a que ça à faire. Donc, on va y croire jusqu'au bout.
Il disait il faut le faire aussi pour les supporters, etc. Et on serait tenté de dire peut-être pour cette équipe aussi, pour la récompenser de cette saison, même si on parlait de ces matchs nuls qui s'enchaînent, la difficulté à trouver le fond du filet. Mais c'est quand même un hack avec un autre visage aussi que celui qui a pu avoir ces années passées parfois.
Ouais, bah c'est pour ça qu'on se dit que ça serait vraiment dommage que cette année, où je pense qu'on a été bien meilleur dans le jeu à certains moments par rapport aux deux premières saison de Ligue 1, ça serait dommage que ça soit cette année où ça passe pas, même si on sait que des fois il suffit pas d'être beau pour se maintenir, il y a des équipes qui font un très bon football et qui se retrouvent quand même en Ligue 2. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dimanche.
Luc, je me tourne vers vous. est-ce que vous êtes optimiste?
Je dirais que l'optimisme en a pris un petit coup quand même. Je commence à m'inquiéter vraiment de plus en plus, moi, quand même, au regard du scénario, au regard surtout de la dynamique du hack, parce que quand même, faut le dire, quand une équipe ne gagne pas un match depuis 11 journées, penser déjà qu'elle peut s'imposer face à une équipe qui en plus est sur une bonne dynamique Lorient, ça me paraît pas utopique, mais ça me paraît compliqué. Je commence vraiment à être inquiet. Je pense que, alors certes, tout le monde va dire oui, Lille est favori face à Auxerre, mais sur une dernière journée, les scénarios sont tellement aléatoires que c'est pas forcément une garantie, loin de là. Je pense que pendant ce temps-là, Nice va être quand même capable de s'imposer contre Metz, surtout s'il y a le retour de Wai devant. Moi, je suis pas du tout optimiste. Je commence vraiment à être inquiet.
Mathieu.
Alors, je ne sais pas s'il faut être inquiet ou s'il faut être optimiste. Bon, la chose, c'est que factuellement, le hack a encore la main. Aujourd'hui, c'est eux qui sont devant. Alors, c'est vrai que ce n'est plus qu'un point. C'était 9 mi-février hein, quand le hack s'est imposé pour la dernière fois contre Toulouse. Que le calendrier, peut-être, sur cette dernière journée, ne lui est pas favorable avec ce déplacement à Lorient. Voilà. Après, c'est vrai que ce match Lille-Auxerre, bon, il faut se concentrer, faut que le hack se concentre sur lui, mais nous, on aura un œil en tant qu'observateur à Lille-Auxerre et peut-être que Chris aussi dans les tribunes du Moustoir dimanche. Sur une dernière journée, il peut tout se passer. Je pense qu'autour de la table, et notamment Chris qui était présent à la méno, peut bien le témoigner, qui aurait mis une caouette l'année dernière sur une victoire du hack, un Strasbourg qui visait la 4e place hein, à l'époque, ouais. Donc synonyme de barrage de Ligue des Champions. Lille aussi est candidat cette année à une qualification directe et sur une bonne dynamique. Au CER aussi, il peut tout se passer. Mais je crois que cette semaine, en tout cas en interne, je pense que ça va être le cas, il va falloir essayer de trouver un maximum de sérénité, de pas paniquer, d'oublier, de s'appuyer un petit peu sur les expériences passées. Hein. Je crois que Chris y faisait aussi référence. Hein. C'est vrai que mine de rien, la saison de la montée en Ligue 1, bah, ça s'est joué au dernier match. Au dernier match, après avoir eu beaucoup d'avance malgré tout. Bon, la saison avec Lucas Lesner, pareil, il y avait eu c'était un peu le même scénario d'ailleurs. Il y avait eu pas mal d'avance et ça avait calé sévère en deuxième partie de saison. Ils avaient dû attendre.
L'avant-dernier match.
Ouais, l'avant-dernier match. Et c'était même c'était presque une victoire à distance de Strasbourg, je crois, contre Metz, qui avait permis de officiellement valider le maintien. Donc, le hack a cette expérience-là, en plus, vraiment ce hack-là. Donc voilà, mais oui, forcément, ça va trembler jusqu'au bout, mais je crois en la capacité quand même de cette équipe-là à faire le job jusqu'au bout. Sachant que je pense quand même, il faut bien préciser, même si bien sûr c'est pas du tout le scénario rêvé, que si ça se passe mal, c'est pas descente. C'est barrage.
Alors,
ça sera,
c'est sûr.
On y reviendra. Ça sera forcément quelque chose de difficile à appréhender. Mais c'est pas le match coup près. Vous avez un petit matelas. Il faudra se remobiliser si c'est le cas. Mais je veux dire, vous serez pas en Ligue 2 si ça se passe vraiment mal dimanche soir. Il faudra s'en remettre. Bon, on a bien vu que Reims, par exemple, l'année dernière, ne s'en est pas remis. Mais voilà. Moi, je pense que le HAC a malgré tout quelques atouts, à commencer par son expérience de ces situations-là.
Est-ce que justement le fait de pas avoir la relégation sèche, que ça se soit pas pour le HAC, c'est un peu, ça, est-ce que ça soulage en quelque sorte de se dire voilà, justement si ça le fait pas, c'est barrage. Et
je pense que quelque part ça doit quand même un peu jouer dans les têtes. Tu joues gros, mais t'as toujours ce joker qui te permet de te rattraper au cas où t'es 16e. Alors bien sûr, si tu peux éviter d'en arriver là, on s'en plaindra pas, mais c'est quand même, il y a quand même le coup près tombera pas dimanche soir, et ça laisse quand même un peu plus d'opportunités de gérer ce match.
Luc, est-ce que le fait que Seco et Gourna soient suspendus sur ce match-là,
ça va pas aider.
Ouais.
Ça va pas aider
non
plus.
Ça fait partie du discours de tout à l'heure.
Bah ça en fait partie, parce que Seco il est indiscutable. Lucas Gourna, bon, je pense qu'un si bon et bon peut le remplacer. Ça sera pas, enfin, on n'y aura pas non plus un énorme bouleversement dans l'ossature. Mais ça fait partie. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont toujours négatifs. Notamment, le fait que devant, tu n'arrives pas à créer vraiment beaucoup d'occasions sur chaque match. Ouais, c'est un autre élément qui me fait dire que ça sera compliqué. Et quand on voit aussi la dynamique lorientaise, mine de rien aussi, sur cette fin de saison, qui a certes plus rien à jouer, mais qui lâche pas l'affaire. Quand on connaît un peu le passif d'Olivier Pantaloni avec le HAC aussi, qui va trouver clairement les motivations pour motiver son équipe sur ce dernier match, qui sera en plus la dernière pour lui à Lorient. Voilà, il y a pas mal de petits aspects qui me font dire que ça sera tout sauf évident.
Est-ce qu'on peut prendre la calculatrice, entre guillemets, enfin, et regarder, voilà, les scénarios possibles ou, ou
bah, pas. Un, tu gagnes.
Voilà.
Oui, au moins, et t'es tranquille.
T'es tiré d'affaire.
Scénario 1, qui est plutôt le meilleur.
C'est le meilleur, c'est sûr.
Parce que c'est pas le cas de toutes les équipes normandes en cette fin de saison, notamment en Seine-Maritime, puisque.
Eh ben, alors, je sais pas à qui on fait référence, mais si, pourtant.
Voilà, je fais référence au FC Rouen qui, à l'instant T, doit non seulement gagner, mais en plus attendre le résultat.
Eh ben non, madame, vous faites erreur. Et s'ils gagnent, c'est bon, ils sont troisième.
Bon, bah peut-être que je me prends.
Ah, on est 100% hack, hein, on n'est pas 100% FC. Hein. Mais c'était une belle tentative de parallèle.
Pas très bien, mais tant pis.
Donc, un, le hack gagne à faire plier. Deux, Nice et ou Auxerre perd
à faire plier.
À faire plier. Et donc après, il y a le cas de figure où il y a les matchs nuls et compagnie. Ce qu'il faut bien avoir, c'est qu'en cas d'égalité de points, ce qui est probable dimanche soir, Auxerre a une meilleure différence de but générale que le HAC, mais pas Nice. Donc ça veut dire qu'en cas d'égalité avec Nice, le HAC serait devant. En cas d'égalité avec Auxerre, c'est Auxerre qui est devant. Donc ça peut avoir son importance dimanche soir. Voilà comment on peut résumer un petit peu la chose sans rentrer dans des calculs trop compliqués. Mais voilà, mais sinon Seco ou Gourna suspendu, c'est ça, c'est le match de Yacine Keshta, c'est écrit. Chris, c'est écrit.
Bah de toute façon, oui, si c'est pas Keshta, ça sera Ibono qui sera titulaire, donc de toute façon, ça sera un gars de la KV et puis comme l'année dernière, Casimir avait participé à notre maintien. Bah, si ça peut être un des deux, je pense que ça peut être n'importe lequel.
Je sens la rentrée de Yacine Kechta en seconde période sur les excellentes recommandations de Célia avec le but de, le but de la victoire au Moustoir. C'est parfait ça comme scénario.
On verra ce que ça donne. On rappelle juste que donc pour du côté de la Ligue 2 au niveau des barrages, il y a un match qui a lieu mardi donc entre le Red Star et Rodez.
Ouais.
Puis il y aura un match entre donc Saint-Étienne et le vainqueur de ce match
la vendredi et donc les barrages Ligue 1 Ligue 2 ont lieu pour le match aller le jeudi 21 mai. Donc sur le terrain du vainqueur des playoffs de Ligue 2 et le match retour du coup éventuellement le dimanche 24. Sur le terrain du club de Ligue 1. Ben, on dit ça, mais on sait que ça ne concernera pas le Havre. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. On sera déjà en vacances, sous les cocotiers. Ça sera parfait.
C'est une volonté de la part du président, de la direction et de moi-même de continuer. Après, on n'est pas les grands décideurs. Donc on
voilà, c'était express, mais c'était, c'était rapide. La petite phrase de Didier Digard qui a été glissée au micro du diffuseur officiel Ligue 1 Plus. Hier, on parlait de vacances et donc d'avenir. Ouais. Et de après le maintien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, forcément, on s'interroge. Ça relance un petit peu les questionnements sur l'avenir de Didier Digard, cette phrase qui dit... finalement, c'est pas entre mes mains, c'est pas entre nos mains.
Oui, en tout cas, il a semblé. Enfin, là, je sais pas si j'interprète ses propos, mais il a semblé entendre qu'il était prêt à prolonger l'aventure, mais que fallait l'aval des propriétaires. Si j'ai bien compris, je sais pas comment Chris, tu l'as interprété cette phrase-là du coach Digard.
Non, je crois que la phrase parle d'elle-même, comme tu l'as dit. Il a décrété, voilà, le président, le DS et lui veulent rester. Après, c'est. C'est en haut que ça se décide. Visiblement, ça a peut-être l'air de bloquer là. Mais... Parce que de toute façon, je pense que l'objectif qui était fixé, c'était le maintien. À partir du moment où l'objectif est atteint, sauf s'il y a des dissensions qu'on ignore, mais il n'y a pas de raison que lui ne veuille pas continuer. Donc, sauf s'il a peut-être aussi lui des prétentions, mais visiblement, c'est pas ce qu'il a l'air d'affirmer dans cette phrase. Donc.
C'est un message clairement pour Blue Crew, hein, cet échange furtif après cette rencontre face à l'OM. C'est un message pour dire on attend toujours un signal de Blue Crew. Moi je l'interprète comme ça en tout cas, mais ce qui rajoute toujours de l'incertitude sur l'avenir et surtout sur quel apport concrètement va amener Blue Crew pour la saison prochaine et en tout cas pour garantir l'avenir du club d'Orient. En Ligue 1, on l'espère. Mais voilà, c'est qu'est-ce que va concrètement amener Blue Crow dans les, je dirais pas dans les prochains mois, c'est là tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que va amener l'actionnaire américain? Et ça reste le grand mystère, à mon avis, pour la suite.
Et forcément, ce non-maintien à l'instant T rallonge à minima d'une semaine, parce que là, forcément, il faut que toutes les forces vives du club se concentrent sur le maintien. Donc, je sais pas, ça a beaucoup parlé de ça et pas forcément de l'avenir dans l'immédiat du club. Ça sera repoussé, mais imaginons scénario positif dimanche soir, il y a maintien. Je pense que dès lundi matin à 8h, notamment chez nos amis supporters, ça se posera la question, qui sera le coach? Est-ce que ce sera toujours avec Mathieu Bonnemer? Parce que oui, il faut connaître un petit peu le positionnement du propriétaire. Est-ce qu'il souhaite continuer avec ces hommes-là, qu'il a, entre guillemets, récupérés, mais qui ont fait leur preuve plutôt deux fois qu'une?
Plutôt bien, oui.
Et est-ce que ces personnes-là, Mathieu Bonnemer et notamment Didier Digard et toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, sont prêts à partir sur une année avec encore des moyens qui frôlent le zéro? Parce que faut bien se dire quand même, c'est vrai que Chris, je crois que tu l'as dit à un moment dans l'émission, mais que le HAC aurait signé pour être là à ce moment de la saison. Ce que fait le HAC compte tenu de ses moyens, et c'est vrai quasiment depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, et c'est un exploit. Sans être méchant, la place du Havre, économiquement parlant, ça devrait être avec Metz. C'est-à-dire à 10 points, à 10-15 points du premier non-relégable. Donc le club surperforme par rapport à ses moyens, grâce à plein de personnes. Mathieu Bonnemer, Didier Digard, Jean-Michel Roussier, Julien Caraz, Momo El Caraz, tout le staff, les joueurs aussi qui sont choisis. Et après, c'est est-ce que le propriétaire veut continuer avec cette team-là, ou alors est-ce qu'ils veulent mettre des gens à eux? Mais c'est vrai qu'on, alors là, bon, ouais, ils vont pas s'exprimer maintenant parce que c'est pas le moment. Mais il faudra rapidement qu'il y ait des réponses parce que bon, on voit qu'il y a des choses qui sortent un petit peu à droite à gauche et alors sans dire qu'elles sont forcément vraies, ça jette un flou sur le club. Je sais pas si Chris, en tant que supporter, est-ce qu'on se projette sur un hack demain, par exemple, sans Mathieu Bodmer et toute sa team?
Ah, forcément, quand on voit ce qu'il a réussi à faire en 4 ans, alors que ça faisait des années et des années qu'on végétait en Ligue 2 sans véritable perspective d'un avenir un peu plus radieux que ce qu'on vivait. Et forcément, on se pose la question de ce qu'il arriverait si demain Mathieu Bodmer n'était plus là. Surtout que là, on parle du futur, mais il y a un nombre inconsidérable de joueurs en fin de contrat.
Exactement.
Et pas des moindres.
Et pas des moindres, tout à fait.
Sachant que dans la situation économique dans laquelle on est, les joueurs qui ont un peu flambé cette année, style Ayumu Seko, s'il y a offre, on peut d'ores et déjà se douter qu'elle sera certainement acceptée si elle est valable et si elle respecte les conditions de tous. Donc là, pour le moment, le futur proche est dimanche. On attend de voir, mais effectivement, après, quand ce sera réglé, notre situation, on va forcément se poser la question.
Ouais. On va vite basculer sur l'après, ouais, effectivement. Sachant que bon, le club a en plus encaissé deux mauvaises nouvelles coup sur coup pour des raisons totalement différentes. La première, c'est la blessure ligament croisé de Stéphane Zagadou, qui était, on l'avait dit, je crois, dans cette émission-là, avec notamment Jean-Michel Roussier, qui en était venu, je pense, la valeur marchande numéro un, compte tenu de son jeune âge, de son profil de prospect, comme on dit, dans le milieu et de son potentiel. Je pense que lui, c'était vraiment un candidat à un départ pour... je sais pas si c'est pour renflouer les caisses ou pour financer une partie du hack de demain. Donc les croisés, ben là, du coup, ben, il faut déjà qu'il se soigne, le garçon. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est, ben, comme on pouvait s'en douter vu qu'il n'avait pas signé, c'est que Kenny Kaitan a décidé
de plier les Gaules
direction l'Allemagne et le Werder de Brême. Bon, ça, après, c'est, voilà, bref, c'est son choix. C'est, voilà, ce qui est un peu curieux, c'est que ce soit annoncé 3 jours avant un match important de son club formateur, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et toujours est-il que lui aussi, pareil, il y a une hype un petit peu autour de lui, la preuve d'ailleurs, il signe au Werder pour 4 ou 5 ans, je sais plus. Donc voilà, donc c'est pas des bonnes nouvelles, il va plus rester avec toutes les fins de contrat, il n'y a plus beaucoup de valeurs marchandes importantes.
Et plus beaucoup de rentrées d'argent du coup potentiel.
Et donc on sait que, Jean-Michel Roussier l'a expliqué, c'est aussi comme ça que la DNCG fonctionne, c'est ok, vous avez tant de déficits, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en face pour le combler? Parce que c'est vrai qu'au niveau des ventes, bah, vous n'avez pas fait le hack, on n'a pas fait énormément depuis quelques saisons. Donc tout ça. Donc c'est pour ça que le propriétaire, moi je pense, devra quand même rapidement se positionner pour sécuriser ça.
Une prise de parole, ouais, serait peut-être la bienvenue hein, de Jeff Lounou notamment pour un peu, on va dire, dresser un plan de route sur l'avenir du hack. Moi, je pense que ça serait vraiment pas déconnant, clairement, de dire un petit peu voilà, sur quoi on peut se projeter quoi, et savoir aussi avec quelle enveloppe, notamment financière, et est-ce qu'il va pas falloir à nouveau éponger des dettes, comme l'an dernier aussi. Voilà, avoir un peu un...
Ah, ça, c'est je pense que c'est mécanique des
dettes. Il y en aura forcément.
Vu comment la structure financière du foot français et d'un club comme l'AC, Jeff Lenoux s'exprime et il dit ce qu'il a à dire, soit du coup, entre guillemets, avec l'autorisation de leur propriétaire... Mathieu Bodmer, Jean-Michel Roussier et Didier Digard prennent la parole en premier en disant on sera tout ça la saison prochaine et on repart pour un tour en essayant de faire de nouveau des miracles. Voilà. Je pense que si cette déclaration est faite, ça rassurera déjà l'environnement à vrai assez rapidement. Mais
est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez entendre de Jeff Lounou en tant que supporter justement?
Bonjour.
Bah oui, comme c'était une clarification sur ce qu'il compte faire aussi quoi. Parce que on sait, comme on l'a dit, des dettes, il y en a toutes les saisons, vu que de toute façon, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas beaucoup de rentrée de transfert.
Il y a plus de dépenses que de rentrée, ouais.
Les droits télé, c'est
pas... Il
n'y
aura pas de droits télé. Hein.
Les droits télé, c'est pas prêt de s'améliorer. Donc, de toute façon, à un moment, s'ils sont là, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Donc, ouais, on attend une clarification.
Et sur Kenny Kaitan, c'est une déception qui reste pas, ou finalement, les mois passant, après la déclat de Roussier disant « oui, il va signer », on voyait rien venir, c'est pas si surprenant que ça finalement.
Après, depuis le temps qu'on parlait de sa signature, à partir du moment où c'est pas fait, tu te dis qu'il y a un loup quelque part. Soit c'est le joueur, soit c'est l'entourage, mais il y a forcément un moment où si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison, et plus ça tarde, plus tu te dis que ça se fera pas. Et je pense que l'issue, sans être dans les détails, on la connaissait à partir du moment où on ne signait pas. On se doutait bien qu'à un moment ou à un autre, on apprendrait que la signature, mais ailleurs.
Il n'y avait pas, de bons signaux, ouais, tant qu'il n'y avait pas de signature. Plus l'incertitude augmentait dans le temps, plus c'était, enfin, ça sentait pas bon. Donc voilà, malheureusement, ça se confirme.
Je signale juste que nos confrères de l'équipe ont annoncé cet après-midi que il y avait l'arrivée d'un directeur général adjoint, je crois, Yacine Sossé Alouï, qui est passé par le PSG Marseille Nice et même la FIFA, et qui sera donc directeur général du club, directeur général sur la partie business et revenus. Voilà, info de Seb Buron, qui a déjà notamment participé à cette émission. On verra si ça change beaucoup de choses. Ça fait sourire Mathieu, en tout cas.
Ah, j'aime bien le titre, en fait. Et je me dis, c'est bien, il va falloir qu'il trouve des revenus, ce monsieur-là. Et je lui souhaite bon courage.
C'est exactement ce que j'allais dire, bon courage.
Parce que c'est un peu un discours, enfin, le titre de ce monsieur-là, que je ne connais absolument pas, mais ça rappelle quand même un peu le discours quand même qu'on avait eu, notamment de Blue Crew et de Jeff Leno, c'est... faire vivre une expérience différente aux supporters, mais au final, le nerf de la guerre du foot, ça reste quand même les 11 bonhommes qui sont sur le terrain et qui tapent dans le ballon, et les gens qui viennent au stade pour assouvir, voilà. Enfin, bien qu'il y ait des choses peut-être révolutionnaires qui puissent se faire, mais au final, là-dessus, ça n'allait pas augmenter les prix des places indéfiniment. Donc, si vous n'arrivez pas à vendre un ou deux joueurs à une bonne valeur et que les droits télé, comme a dit Chris, ça va pas se refaire. Si votre actionnaire remet pas ou n'est pas en capacité, hein, parce que je ne connais pas les finances du groupe Blue Crow, mais s'ils sont pas en capacité de le faire, ça va poser des questions sur qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, en fait. Et faut pas oublier que c'est des Américains qui ont bossé dans un sport américain comme le baseball, où il y a pas de, enfin, ça fonctionne pas sur les mêmes systèmes, donc
Plus encadré ici, oui, c'est ça.
Et puis surtout, il y a pas de pas de système de transfert et compagnie. Et on voit qu'avec l'Evente, il y aura un autre club qui leur appartient.
Les Ganes,
effectivement. Ça se passe pas fou, quoi. Même si eux, ils ont vendu un joueur assez cher, mais du coup, ça n'a pas été réinjecté dans l'équipe première.
On verra ce que ça donne. S'il y a maintien ce dimanche, on peut en tout cas imaginer que certainement le club, on ne sait pas qui, hein, devrait s'exprimer peut-être dans la semaine qui suit. Hein.
Le club a pris l'habitude d'eux.
C'est la tendance.
Voilà. Ouais. Après, je pense que là, forcément, c'est hors de propos tant que le maintien n'est pas validé. Mais en tout cas, l'année dernière, c'était le scénario qui s'était passé. Maintien, c'était pareil, c'était un samedi ou un dimanche soir
Un samedi soir.
Je crois qu'il y avait eu le mardi ou le mercredi, je crois qu'il y avait eu une conférence de presse avec Jean-Michel Roussier et Mathieu Bonnemer, donc très très vite. Donc oui, on peut s'attendre à ça. On connaît pas la nature des discussions en interne. Hein. Peut-être qu'ils ont déjà toutes les réponses, hein, et qu'ils attendent juste que le maintien soit validé pour pouvoir les donner, notamment aux supporters. Et en espérant qu'elles aillent dans le bon sens pour le hack.
Le déplacement à Lorient, c'est encore trop tôt pour savoir s'il y a des choses de prévues ou des... Voilà, on peut imaginer que le parcage sera bien rempli, en tout cas, voire complet.
Ah oui, bien rempli, oui. Après, les détails du déplacement, ça va se faire cette semaine. Parce qu'en fonction de si on a été maintenu ou pas, les décisions d'y aller pouvaient changer. Donc, ça va se mettre en place tout doucement. Là. Il reste encore... quelques jours, là, on va faire ça tranquillement, comme d'hab.
Non, sachant qu'un dimanche soir, c'est forcément moins facile qu'un samedi soir, effectivement, la saison dernière. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va faire un tour d'horizon, comme d'habitude, des autres formations du HAC. Et on va commencer par l'ascenseur émotionnel pour les jeunes havraises en finale de la Coupe Nike U18, nouvelle compétition. C'était en levée de rideau de la Coupe de France féminine dimanche, cette finale. Et malgré une égalisation de Thaïs Gallet aux ultimes instants du temps additionnel, il y a eu donc deux buts partout à la fin du temps réglementaire, mais défaite 4-5 au tir au but pour les joueuses de Romain Chevrier. Chez les garçons, match nul pour la réserve du HAC en Régional 1. C'était face à Bayeux, 1-1. Les Havrais sont 6e, il reste encore 2 journées. Du côté des U19, c'était jour de derby, match nul également, 1-1 pour les Ciel et Marines face à Caen. Ils terminent la saison à la 8e place, et puis 8e place aussi pour les U17 après leur défaite 2-1 face face à Laval. Un petit mot de Luc.
Ouais, puis le maintien quand même.
C'est ce que j'allais dire.
Féminine.
C'était la prochaine. Bon, voilà. Il y avait le et puis que j'ai rajouté. Voilà, ça remonte au 6 mai dernier, mais oui. Maintien des féminines en Arkema Première Ligue. Le dernier match de la saison, c'était face à Nantes avec un
3
nul 3 partout. Ouais. Voilà, pour ceux qui veulent voir des buts, c'est pas mal. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce nouveau numéro du débrief 100% à Chris. Bonne préparation pour ce déplacement à Lorient. Mathieu, on vous lit sur footnormand.fr. On retrouve notamment les fameux scénarios de maintien direct possible pour le HAC. Et Luc Gallet, c'est le courrier cauchois à retrouver un peu plus tôt que d'habitude dans les kiosques. Ouais. Ce sera dès jeudi avec cette semaine fériée qui bouleverse un petit peu les
et quelques
les
enjeux aussi de maintien à une échelle plus basse, notamment en Régional 1, qui concerne nos clubs cauchois, Ifto et Luneray, qui sont toujours en course, mine de rien. Ifto, il croit toujours au maintien, donc voilà, ça sera à lire aussi dans nos pages sportives.
Et merci à tous, fin de partie, et à très vite pour un nouveau débrief.